Chapitre 21. La dernière note du duo. Nos jeunes couples d'époux comprennent fort bien qu'à deux on se tient compagnie et qu'à trois il n'en est plus ainsi, mais voici que vient un bruyant petit intrus qui va faire irruption dans leur douce intimité. L'arrivée de ce troisième larron est le commencement d'une nouvelle vie pour eux, aussi bien que pour lui, une vie plus utile, plus durable, mais qui n'a jamais plus la concentration d'autrefois. Le petit être rougeau aux yeux clignotants détournera de son côté une part de l'amour, une part de l'attention, et la souffrance même qui a accompagné sa venue lui attirera l'attachement du cœur maternel. Il n'en sera pas ainsi pour le mari. Il se mêle à son orgueil de père une vague rancune, et les souffrances de la femme continuent à irriter ses souvenirs alors qu'elle les a complètement oubliés. Sa pitié, ses craintes, son inutilité, son malaise lui assignent un rôle dans la tragédie domestique. On s'explique ainsi que, chez certaines tribus, ce soit l'homme et non la femme qui reçoivent les compliments de condoléances et de sympathie. Il vint un temps où Maud éprouva des malaises. Il y eut des mois où elle alla mieux. Des indices se montrèrent, annonçant l'approche d'un certain jour dont la pensée seule était une ombre dans l'existence de son mari. Quant à elle, ce fut avec le tranquille et noble courage de la femme, avec une douce sérénité qu'elle attendit l'avenir. Mais pour lui, c'était un cauchemar, un réel cauchemar, qui l'obligeait à se lever, tout moite, tout frissonnant aux heures grises de l'aube, au moment où les ombres noires s'abattent sur l'esprit de l'homme. Il y avait une fermeté obstinée à l'égard de ce qui le concernait lui-même, une force de volonté qui lui fait rester calme et immobile dans le fauteuil d'un dentiste, mais quelle philosophie, quelle endurance peut vous fortifier contre la douleur qu'ont à souffrir les personnes qu'on aime? Il se tourmentait, il s'énervait, il était sans cesse en proie à cette idée illusoire qu'il réussissait très bien à dissimuler son agitation, son énervement. Cent échecs ne convaincront pas un homme qu'il est absolument impossible de tromper une femme qu'il aime. Maud les pillait en silence et faisait ses plans. « Savez-vous, mon chéri, dit-elle un soir, si vous pouviez demander une semaine sur votre congé maintenant, je crois que vous feriez bien d'accepter cette invitation de Mr. Mildmay et de passer quelques jours à jouer au golf à Norwich. » Frank ouvrit de grands yeux ébahis. « Quoi, à présent ?»« Oui, mon chéri, tout de suite. »« À présent, en un pareil moment ?» Maud le regarda avec cet air de candeur absolue qu'une femme ne prend jamais, si ce n'est quand elle se propose de vous mettre dedans. « Oui, mon chéri, mais seulement la semaine prochaine. J'ai pensé que cela vous donnerait des forces pour... Eh bien, pour la semaine prochaine. Vous croyez que ce sera la semaine prochaine ?»« Oui, mon chéri, cela me ferait tant de bien si je vous savais bien en forme. » « Moi, qu'est-ce que cela peut faire que je sois en forme? En tout cas, il ne saurait être question de cela. »« Mais vous pourriez avoir un congé ?»« Oh, ce serait assez facile. »« Alors, partez. »« Vous quittez en un moment pareil ?»« Non, non, vous seriez revenu alors. »« Vous ne pouvez pas en être sûr. »« Non, Maud, je ne me pardonnerai jamais cela. »« Mais dans mon intérêt... » En voilà assez, Maud, mon parti est pris. Maître Frank avait les pieds lourds quand il mettait les pieds dans le plat, et sa femme s'aperçut, au bruit que cela faisait, que c'était sérieux cette fois. Elle sentit passer en elle un curieux courant et contre-courant. Elle fut à la fois charmée et désappointée, mais plus charmée que désappointée. Aussi embrassa-t-elle l'homme qui déjouait ses complots. Quelle vieille entêtée vous me faites! Mais naturellement, vous savez à quoi vous en tenir, et il vaudra mieux que je vous aie à la maison. Comme vous le dites, on ne peut pas être certain. Dans une lutte d'ingéniosité, la femme peut perdre une bataille, mais c'est elle qui est victorieuse à la fin de la campagne. L'homme s'éparpille sur bien des choses, pendant qu'elle se concentre sur une seule. Maud avait porté toutes les forces de son esprit sur un point, et elle comptait bien réussir. Elle essaya d'un côté, elle essaya d'un autre, par l'entremise d'un ami, par celle de sa mère, mais Franck restait toujours inébranlable. L'épreuve qui l'attendait ne la troubla pas un seul instant, mais la pensée que Franck souffrirait lui était insupportable. Elle se mettait à sa place et se représentait l'état où il serait s'il était dans la maison à un moment pareil. Elle employa bien des ruses habiles pour le faire partir, mais lui, avec son entêtement invincible, refusait de s'y laisser prendre. Alors, tout à coup, elle s'aperçut qu'il était trop tard. Ce fut un matin de très bonne heure qu'elle acquit cette certitude, mais lui, qui était près d'elle, n'en savait rien. Il vint la trouver avant de partir pour la cité. « Vous n'avez rien mangé, ma chérie ?»«
Non, Franck, je n'ai pas faim. »
« Peut-être, quand vous serez levé ?»«
Eh bien, mon chéri, je comptais rester au lit. »«
Vous n'êtes pas... »«
Quelle sottise, chérie ! J'ai besoin de rester bien tranquille jusqu'à la semaine prochaine, où j'aurai besoin de toute ma force. »«
Chère petite, je donnerai volontiers 10 ans de ma vie pour que la semaine prochaine fût passée. »«
Grand sot ! Mais je crois qu'il serait plus prudent de rester au lit. »
« Oui, oui, faites-le. »«
J'ai un peu de migraine, bien peu de choses, rien qu'un peu. »«
Ne pensez-vous pas que le docteur Jordan ferait bien de vous donner quelque chose pour cela ?»«
Vous croyez ? Eh bien, comme vous voudrez. Vous pourrez l'avertir en passant, lui dire de monter. »
Ce fut ainsi qu'elle fit venir le docteur auprès d'elle, sous un prétexte, et que celui-ci se trouva en face d'une tâche réelle dès qu'il fut là. Elle avait écrit un billet à Franck au moment où il avait quitté la maison et, quand il rentra, assez tard dans l'après-midi, il fut accueilli par ce billet et par la conspiration du silence. Le billet était sur la table du vestibule. Il l'ouvrit à la hâte. «
Mon chéri, disait cette mensongère épître, j'ai encore la migraine et le docteur Jordan a été d'avis qu'il vaudrait mieux me reposer sans être dérangé. » Mais je vous enverrai prévenir quand j'irai mieux. Jusque-là, il est préférable, je crois, que je sois seule. Mr. Harrison a envoyé dire qu'il viendrait vous aider à mettre les oignons en pot, en sorte que vous aurez quelque chose à faire. Ne vous tourmentez pas à mon sujet, car je n'ai besoin que d'un peu de repos.
Il trouvait extraordinaire de ne pas entendre à son arrivée le rapide froufrou de sa robe qui suivait de si près le grincement de son passe-partout que les deux bruits se confondaient presque. Le vestibule et la salle à manger semblaient peu accueillants sans cette figure radieuse qui lui souhaitait la bienvenue. Il allait et venait mécontent sur la pointe des pieds quand, regardant par la fenêtre, il vit son voisin, Harrison, qui venait par l'allée portant un panier de paille. Il lui ouvrit en mettant un doigt sur ses lèvres. « Pas de bruit, Harrison, dit-il, ma femme est indisposée. » Harrison sifflota tout doucement. « Pas... » « Non, ce n'est pas ça, rien qu'une migraine, mais il ne faut pas la déranger. Nous l'attendons la semaine prochaine. Entrez et fumez une pipe avec moi. Vous avez été bien bon d'apporter les oignons. Je vais en chercher d'autres. » « Attendez un moment, vous pourrez partir ensuite. Asseyez-vous et allumez votre pipe. Il y a quelqu'un qui va et vient là-haut. Ce doit être Jemima avec ce pas lourd. J'espère qu'elle ne réveillera pas Maud. Je pense qu'il faut s'attendre à ses attaques en pareilles circonstances. » « Oui, c'était tout pareil pour ma femme. » « Non, merci, je viens de prendre le thé. » « Vous avez l'air ennuyé, Cross. Ne prenez pas les choses d'une façon si pénible. » Je ne peux pas chasser de mon esprit l'idée de la semaine prochaine. Si quelque chose tourne mal, eh bien, voyons, qu'est-ce que je ferai? Je n'aurais jamais cru qu'un homme pût avoir les nerfs aussi tendus. Et c'est une vraie sainte, Harrison, une sainte si absolument exempte d'égoïsme. Vous ne vous figureriez jamais ce qu'elle a tenté de faire.
Quoi donc?
Elle savait ce que cela serait pour moi, ce que cela sera en effet pour moi, de rester ici impuissant pendant qu'elle passera par cette crise horrible. Elle a deviné, par je ne sais quelle prescience extraordinaire, ce que j'éprouverai. Et elle a bel et bien tâché de me tromper sur la date, tâché de m'éloigner de la maison, sous un prétexte ou un autre, jusqu'à ce que ce soit fini.
Elle a comploté ça, elle l'a fait si adroitement qu'elle aurait réussi si quelque chose ne m'avait pas mis sur mes gardes. Elle y mettait un peu trop d'insistance, une insistance qui n'était pas naturelle, et j'ai vu clair dans son jeu. Mais songez donc, quelle absence totale d'égoïsme, tenir compte de moi en un moment pareil, et affronter son épreuve toute seule, sans aucune aide, rien que pour me la rendre plus légère. Elle voulait m'envoyer à Norwich, à cette partie de golf. Elle a dû vous croire bien innocent, Cross, pour supposer que vous vous laisseriez berner si aisément. Oui, c'était une tentative désespérée que de vouloir me tromper sur un point comme celui-là, ou bien de se figurer que mon instinct ne me dirait rien, alors qu'elle avait besoin de moi. Cela ne vous ennuie pas que je vous parle de ça, Harrison? Mon brave, c'est justement ce dont vous avez besoin. Vous avez gardé tout ça trop renfermé. Votre santé n'y résistera pas. Après tout, ce n'est pas si sérieux que ça. On s'exagère beaucoup le danger. Vous croyez? J'ai passé par là deux fois. Vous irez à la cité un beau matin et, à votre retour, tout sera fini. Oh, certes non, ce ne sera pas fini. J'ai pris mes dispositions au bureau et dès la première heure où elle sera indisposée, je ne bougerai pas de la maison. Quoi qu'elle puisse dire, je sais fort bien que de me sentir ici, cela lui donnera de la force et du courage. Vous pouvez ne pas savoir quand cela viendra. Frank eut un rire incrédule. C'est ce que nous verrons, dit-il, et d'après ce que vous avez éprouvé, Harrison, ce n'est pas si grave que ça, après tout. Oh non, c'est bientôt passé. Bientôt? Qu'entendez-vous par bientôt? Jordan est resté 6 heures la première fois. Grand Dieu, 6 heures? Frank essuya son front. Elles ont dû paraître 6 années. Oui, elles ont paru assez longues. Je suis resté tout le temps à jardiner. Voilà le tuyau. Occupez-vous tout le temps à quelque chose. Ça vous aide merveilleusement à aller jusqu'au bout. C'est un bon conseil, Harrison. Quelle odeur singulière il y a dans l'air. Ne sentez-vous pas un arôme léger, douceâtre, alcoolique? Bon, c'est peut-être dans mon imagination. Je puis le dire, j'ai eu tous ces jours-ci une tension nerveuse. Mais c'est une fameuse idée que vous me donnez là, de s'occuper à quelque chose. Je passerai ces heures à travailler comme un enragé. Enlevons tout ce qu'il y a dans le jardin de derrière et replantons-le dans le jardin de devant. Harrison se mit à rire. « Je vais vous proposer quelque chose de moins héroïque, dit-il. Vous pourriez conserver tous ces oignons et les mettre en pot. À propos, je vais chercher les autres. Ne vous inquiétez pas de la porte, je la laisserai ouverte, car il ne me faut que 5 minutes. »« Je vais mettre ceci dans la serre, dit Frank. » Il prit le panier d'oignons et les rangea sur l'étagère de bois de la petite serre adossée au mur de derrière de la maison. Lorsqu'il revint, il y avait quelque part un petit chat qui miaulait. C'était un son faible, mais persistant, qui revenait par poussées successives. Il prit le râteau et fouilla avec le manche parmi les massifs de laurier, au-dessous de la fenêtre de leur chambre à coucher. Cet animal réveillerait peut-être Maud, donc il fallait le déloger. Cela en valait la peine. Il ne put l'apercevoir, mais quand il eut bien fourragé dans les massifs et crié « Pfff !» plusieurs fois, le gémissement cessa et Frank emporta son panier vide dans la salle à manger. Là, il ralluma sa pipe et attendit le retour de Harrison. Voilà que cet importun petit chat recommençait. Il entendait miauler quelque part, à distance. Cela ne faisait pas grand bruit dans le jardin et peut-être valait-il mieux ne pas s'en occuper. Il éprouva une forte envie de monter sur la pointe des pieds pour voir si Maud se remuait. Après tout, puisque Jemima ou quelque autre pouvait aller et venir en grosse bottine là-haut, il n'avait pas à craindre d'être gênant. Mais elle avait dit qu'elle sonnerait ou ferait prévenir quand elle pourrait le voir. Peut-être valait-il mieux qu'il attendît. Il mit la tête à la fenêtre et cria à plusieurs reprises « Fut !» dans la direction des massifs de laurier. Puis il s'assit dans le fauteuil, le dos tourné à la porte. Des pas lourds résonnèrent dans le vestibule et il vit vaguement du coin de l'œil qu'il y avait sur le seuil quelqu'un qui portait un objet. Il se dit qu'Harrison aurait bien pu faire moins de bruit pour apporter les oignons. Aussi lui fit-il un accueil assez froid et il dit sans se retourner « Mettez-les dans le hangar. » « Pourquoi le hangar ?»«
C'est là que nous les tenons, mais vous pouvez aussi bien les mettre sous la commode ou dans le seau à charbon, où vous voudrez, pourvu que vous ne fassiez pas de bruit. »
« Voyons sûrement, Cross. »
Alors Frank bondit de son fauteuil.
« Le diable m'emporte si un infernal petit chat n'est pas quelque part dans la chambre. »
Et, se retournant, il se trouva face à face avec la rue des bonnes figures du vieux docteur Jordan. Celui-ci portait sur le pli de son bras quelque chose de rond et de petit qui était enveloppé dans un châle brun. Par devant, le châle entrebâillé laissait passer un poing à peu près de la grosseur d'un calot, dont le pouce était replié sous les petits doigts et dont tout le membre décrivait des cercles comme si son possesseur annonçait joyeusement son heureuse arrivée.
« Me voici, bonnes gens ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! » criait la menotte.
Puis, la fente du châle s'élargissant, Frank aperçut derrière l'énergique poing une grande bouche ouverte, un petit bouton de nez et deux yeux si fortement fermés qu'on eût dit que leur possesseur avait juré qu'aucune circonstance ne le déciderait à accorder la moindre attention au monde nouveau dans lequel il avait été introduit. Frank lâcha sa pipe et resta à considérer l'apparition d'un air ébahi.
« Qu'est-ce ? Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est le bébé. »«
Le bébé ? Le bébé de qui ?»«
Le vôtre, naturellement. »«
Mon bébé ? Où ? Où l'avez-vous pris ?»
Le docteur Jordan éclata de rire. « Vous avez l'air d'un homme qu'on vient de réveiller, » dit-il. « Voyons, Cross, votre femme a été dans les douleurs tout le jour, mais elle va mieux maintenant, et voici votre fils et héritier. Jamais je n'ai vu un petit garçon aussi beau pour son âge. Il pèse près de 7 livres. » Frank était, au fond, d'une nature fort orgueilleuse. Il ne s'abandonnait guère. Peut-être s'il avait été seul à ce moment-là, pendant que la grande vague de joie submergeait son âme, balayant de sa crête toutes les craintes, tous les pressentiments, serait-il tombé à genoux pour prier. Mais la prière part du cœur et non des genoux, et toute l'énergie de sa nature se concentra en ses actions de grâce muettes envers ce grand destin qui poursuit sa route, sans souci des remerciements ou des reproches. Le docteur vit devant lui un jeune homme pâle, maître de lui-même, et le trouva singulièrement difficile à émouvoir.
« Eh bien, dit-il avec impatience,
va-t-elle bien ?»«
Oui, ne voulez-vous pas prendre votre fils ?
Pourrait-elle me voir ?
Je suppose qu'une visite de quelques minutes ne lui ferait pas de mal. »
Le docteur Jordan raconta par la suite que Frank monta en 3 pas les 15 marches. La garde-malade, qui le rencontra sur le palier, se rappelle ce jour-là comme un jour où elle faillit laisser la vie. Maud était étendue sur son lit, la face aussi pâle que l'oreiller qui l'encadrait. Elle avait les lèvres exsangues, mais souriantes.
« Frank !
Ma bonne chère petite !
Vous ne saviez pas, n'est-ce pas, Frank ? Dites-moi que vous n'avez jamais su !»
Et, à cette question anxieuse, le sot orgueil, grâce auquel les émotions de l'homme énergique restent ensevelies, comme si elles étaient le trait le moins honorable de son caractère, s'évanouit à l'instant et Frank reposa sa tête sur l'oreiller, à côté de la tête pâle, et étendit son bras sur la femme qu'il aimait et sanglota comme il n'avait jamais sangloté depuis son enfance. Il lui mouilla la joue de ses larmes. Il ne vit le docteur que quand celui-ci s'approcha de lui et le toucha à l'épaule.
« Je crois que vous feriez mieux de descendre maintenant. »
« Désolé d'avoir été si sot, docteur, » dit Frank en rougissant, l'air embarrassé, comme un vrai Anglais qu'il était. « C'est plus fort que moi. »
« Monsieur, répondit le docteur, je vous dois des excuses, car je ne vous ai pas rendu justice. En attendant, il faut qu'on prenne soin de votre fils, et il n'y a guère de place pour 3 hommes dans votre chambre à coucher. »
Frank descendit donc dans la chambre d'en bas, où la nuit se faisait. Il alluma machinalement sa pipe et resta assis, les coudes sur les genoux, les yeux grands ouverts sur l'obscurité constante où une seule et brillante étoile clignotait dans un ciel violet. Il sentait autour de lui le doux silence du crépuscule.
Un oiseau attardé lançait des appels au dehors, parmi les massifs de lauriers. En haut, il entendit le bruit étouffé des pas, un murmure de voix, et au milieu de tout cela, ses cris grêles, collants, sa voix, la voix de cet homme tout neuf qui avait devant lui toutes les alternatives du bien et du mal et qui était venu habiter avec eux. Et en entendant ses cris, il sentait une douce mélancolie se mêler à sa joie, car il avait l'intuition que désormais tout allait changer définitivement, que, si suaves que fussent les harmonies de la vie qu'il attendait, à dater de cette heure, elles se combineraient peut-être pour former le son le plus subtil, le plus charmant, mais qu'elles n'en seraient pas moins un trio, et non plus le cher duo d'autrefois.